Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud.
Et bonjour Florian.
Alors, aujourd'hui, donc, bonne année.
Eh bien, bonne année à toi aussi et à tous nos auditeurs.
Et justement, tu vas faire les vœux pour la nouvelle année, donc conseiller les gens, qu'est-ce que tu leur dirais? Donc, ne pas se laisser manipuler.
Oui, entre autres, on va parler de s'informer, aussi de ne pas se laisser diviser également.
Attention à la stratégie du diviser pour mieux régner.
Exactement.
Normalement, tu viens dans l'émission avec un PC. Un ordinateur,
tout
mais là tu es venu avec des bouquins, tu vas nous en parler des bouquins.
Exactement.
C'est un peu des bouquins qui t'ont aidé aussi dans ton combat, non ?
Dans ma progression personnelle et dans ma conception du monde, effectivement. Et je voudrais partager un peu comme un cadeau de nouvelle année, on va dire, cela avec nos auditeurs, parce que pour moi c'est des livres, on va y revenir, qui font vraiment une transition entre une vision peut-être limitée, matérialiste du monde, on va dire, et vraiment des ouvertures vers quelque chose qui nous montre que le monde est beaucoup plus complexe. Et je ne parle pas uniquement du dessous des cartes, de pourquoi telle ou telle décision sont prises par nos dirigeants ou dans quelle direction on va, mais également des choses tout simplement sur la conscience, le cerveau, la vie après la mort, les civilisations anciennes, des choses qui sont aussi dans beaucoup d'autres directions et qui sont, je dirais, rafraîchissantes. On y reviendra parce que dans un monde où beaucoup ont l'impression que les choses vont beaucoup à volo quand même, il est important de ne pas se laisser abuser, il est important de s'informer au mieux, il est important d'agir pour ne pas se laisser bouffer, on pourrait dire, par tout ce que l'on découvre aussi de difficile, mais également d'écarter ces quatre murs. Donc ce serait une émission écarter ces quatre murs aujourd'hui.
Écartons les murs alors.
Voilà, exactement. En découvrant un petit peu d'autres choses et que le monde est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe que ce qu'on nous a fait croire jusque-là, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est des choses qu'il faut aller chercher. On ne vous les donnera pas tout cuit à l'école ou aux 20h, quoi. Ça c'est sûr. Voilà, donc si tu veux on démarre. Je voudrais juste faire un trait d'union avec l'émission de la semaine dernière et de la semaine d'avant d'ailleurs, qu'elles étaient un petit peu liées autour de tout ce qui était justement pourquoi est-ce qu'on bouge, pourquoi au contraire on ne bouge pas parfois au niveau social, donc là avec la réforme des retraites, mais toutes les couleuvres qu'on a avalées et qui ont fait qu'on ne bougeait pas, et tous les avantages, on va dire, tous les qualités de l'être humain qui ont parfois été utilisées à notre détriment, comme par exemple notre capacité d'adaptabilité, de résistance à la contrainte, qui fait que finalement on ne bouge pas une contrainte après l'autre, on accepte, jusqu'à ce que finalement ça soit absolument intenable. Ou bien notre capacité d'espoir qui fait qu'on a toujours l'impression quand même que même si les temps sont durs, même si des décisions négatives sont prises, on finira quand même par s'en sortir et du coup on réagit pas non plus. On a vu un certain nombre de choses, donc j'invite nos auditeurs à se référer à ces deux émissions donc du 26 décembre 2019 et du 2 janvier 2020. Et aujourd'hui je voudrais juste donc en guise de trait d'union discuter un petit peu très rapidement de cette arnaque un peu du diviser pour mieux régner. Et j'aimerais bien qu'on dépasse cela en 2020, on va dire, si c'est possible, si j'ai un espoir là-dessus. Parce qu'effectivement, quand on le voit au niveau de la réforme de retraite, c'est tout à fait emblématique. La manière dont on focalise l'attention des gens, on excite leur jalousie pour des miettes sur les régimes spéciaux. Regardez, eux, ils partent un peu plus tôt que les autres en retraite, ou regardez, ils ont un petit peu plus, etc. Donc on fait que les gens se focalisent sur finalement des détails et se battent pour des miettes pendant que le gros morceau n'est pas traité. Je rappelle quand même que si on pouvait récupérer les 80 milliards d'évasion fiscale annuelle qu'on ne va pas chercher sciemment, parce que vraiment là c'est clair, on n'aurait pas besoin certainement de rogner autant sur les programmes sociaux ou sur nos retraites. Ne nous laissons pas abuser, ne nous laissons pas, disons, diviser et monter les uns contre les autres pour des broutilles ou des peccadilles. Regardons vraiment les choses qui sont importantes. Et également, je dirais, il ne faut pas non plus se laisser abuser par des éléments comme la clause du grand-père ou des choses qui vont dire que oui, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas concernés. Ce qui fait qu'en fait, on on s'attaque, si tu veux, à un groupe après l'autre, plutôt que d'essayer de faire tout le monde en même temps, en comptant sur la notion du après moi le déluge, si tu veux, que les gens vont dire bon, bah, moi je suis pas concerné donc je bouge pas, et on évite comme ça qu'on puisse atteindre une masse critique qui ferait empêcher les mesures draconiennes ou qui sont prises un petit peu en sous-main, quoi. Donc là, effectivement, moi j'invite les gens à ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Ça me rappelle un peu la formule, tu sais, du très connu, hein, du pasteur Martin Niemöller. Alors, j'espère que je le prononce correctement. C'est ce pasteur allemand qui avait été donc finalement envoyé en camp de concentration, qui avait eu cette maxime, hein, qu'on a traduite comme d'abord, ils sont venus pour les communistes. Comme je n'étais pas communiste, en gros, je n'ai pas bougé, je n'ai pas réagi, je n'ai pas protesté. Et puis ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes. Et comme je n'étais pas syndicaliste, je n'ai pas protesté. Et puis, ils sont venus pour les juifs. Comme je n'étais pas juif, je n'ai pas protesté. Et quand ils sont venus pour moi, eh bien, il n'y avait plus personne pour protester. Voilà, cette idée de diviser pour mieux régner, mais également de traiter, de s'appuyer sur l'individualisme et après moi, le déluge de chaque personne, je trouve ça effectivement à la fois diabolique, mais malheureusement qui fonctionne très très bien pour faire passer des mesures qui sont effectivement une dégradation sociale. Comme
ce qu'il faudrait faire, c'est agir, même si ça ne nous concerne pas forcément.
Exactement. Donc ça veut dire agir, d'abord se renseigner, ne pas se contenter uniquement du 20h, essayer de croiser les sources, de chercher des informations ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois à cette émission, pour ne pas être des moutons tout simplement, hein, pour ne pas croire tout ce qu'on nous raconte, pour ne pas se laisser manipuler. Par ailleurs, évidemment, agir, parce que si on n'agit pas, alors qu'on rassemble ces informations, qu'on en sait de plus en plus, ben, ça finit par nous ronger quelque part. On a besoin d'une action. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a énormément de choses à faire et que je ne vais pas dire, mais le bateau coule un petit peu, donc il est quand même grand temps qu'on soit très, très nombreux à essayer de boucher les trous et à ramer, parce qu'effectivement, la majorité des militants ont cette sensation d'épuisement qui provient du fait que finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont être des braves gens, qui ont la sensation qu'il y a un certain nombre de choses qui partent à volo, qui se dégradent, qui ont un malaise un petit peu, mais qui, en fait, n'ont pas vraiment de direction, ne savent pas dans quelle direction aller, quelle cause prendre en main, mais je dirais n'importe laquelle. Prenez une cause et essayez de vous rapprocher d'autres personnes qui agissent en ce sens et essayez d'apporter votre pierre à l'édifice. Si on est nombreux, eh bien, on aura vraiment une efficacité.
À son échelle aussi.
À son échelle, exactement. Et d'autre part, ça vous fera du bien parce que ça vous mettra dans une situation d'action, une situation positive. Et qui va évidemment faire quelque chose de beaucoup plus sain que de simplement se lamenter sur la dégradation du monde, de son environnement, de notre futur incertain, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Donc l'action. Effectivement, je dirais la troisième étape, c'est les fameuses écartez vos quatre murs, la fameuse expression dont je parlais tout à l'heure, parce que il faut aussi sortir de ce marasme permanent de ce que l'on voit qui ne va pas au niveau de la réalité de tous les jours, du quotidien, et également du dessous des cartes qu'il faut connaître, mais aller au-delà de cela, c'est important pour son équilibre à la fois dans les relations humaines, ne pas perdre de vue tout ce qui est important, tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui nous alimente en termes affectifs aussi, donc se rapprocher des autres, choisir les contacts humains, on en a déjà parlé la semaine dernière, dans tout ce que l'on peut, y compris dans nos achats, dans nos choix d'activités, aller vers l'humain plutôt que vers la machine, ça on en a déjà parlé et on y reviendra une autre fois. Mais également, donc, essayer d'aller au-delà de cela. Alors moi, je vous invite à découvrir quelques livres qui, pour moi, ont été vraiment déterminants. Alors, je voudrais citer, par exemple, le dictionnaire de l'impossible et le nouveau dictionnaire de l'impossible de Didier Van Coverlert. Voilà. Alors, c'est des livres, ça doit valoir 10 euros pièce. Hein, voilà, 8,90 pièces, donc c'est pas ruineux. Hein. Je pense que pour vos étrennes, vous pouvez vous l'offrir. Effectivement, et ce sont des livres qui, pour moi, ont vraiment fait un trait d'union, parce que j'avais une mentalité extrêmement cartésienne. Je veux dire, j'ai une formation scientifique à la base. Je suis ingénieure agronome en fait à la base avant d'être prof d'anglais. J'ai, je fais un master en sciences environnementales appliquées au Y College à Londres. J'ai fait un bac S, si on peut dire.
Bon, les auditeurs apprennent à te connaître comme ça.
Voilà, donc effectivement, mon approche était plutôt essentiellement uniquement cartésienne. Et ces livres-là ont fait vraiment le trait d'union, parce que sans forcer, par petites touches, par petites vignettes, par petites entrées, en fait, Didier Van Coverlaert nous parle de choses qui sont référencées, des expériences scientifiques, qui sont aussi des archives, des choses intéressantes, et qui nous montrent que le monde est bien plus vaste que simplement les éléments matérialistes qu'on a toujours vus. Alors je vais vous citer 2-3 éléments pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu. Dans le dictionnaire de l'impossible, par exemple, vous avez l'expérience de René Péoc. Alors René Péoc a fait une thèse en médecine, un doctorat en médecine qu'il a eu à l'unanimité en 1986. Alors lui, en fait, il est parti de l'idée que, vous savez, on a souvent vérifié qu'un poussin qui éclot, il prend pour sa mère tout ce qu'il y a à côté. Lui, il a fait ça avec un robot. Il a mis un robot à déplacement aléatoire à côté du poussin qui éclot. Et quand le poussin éclot, il prend le robot pour sa mère. Et donc, il le suit partout, en fait. Mais si on sépare le poussin du robot par exemple une paroi vitrée, le poussin ne peut plus suivre le robot. Et donc, là, il n'a d'autre choix pour se rapprocher, entre guillemets, de sa mère, donc le robot, de faire venir le robot vers lui. Et en fait, on constate que quand on sépare le poussin de sa mère, et c'est pareil, il a fait l'expérience plusieurs milliers de fois apparemment, les déplacements dits aléatoires du robot sont beaucoup moins aléatoires et qu'il devient finalement attiré par la vitre de séparation qui le rapproche du poussin. Donc c'est comme si le poussin, prenant le robot pour sa mère, avec la force de son intention, était capable de guider un petit peu le robot et de l'attirer plus vers lui que loin de lui. Alors, évidemment, il y a eu des critiques et des choses comme ça, mais par contre, il a eu sa thèse à l'unanimité. Alors, les critiques étaient mal fondées parce qu'en fait, en pratique, on parlait d'effet de bord, d'effet de coin, etc. Pas du tout, parce que si on fait téléguider le robot et on le fait attaquer le poussin à la naissance quand il sort de l'œuf, il se dit « maman me fait mal ». Et là, au contraire, on va avoir la même expérience, mais si tu veux, le robot, il va complètement à l'opposé. Il va loin de la vitre, loin du poussin. Le poussin réussit par son intention à repousser le robot loin de lui. D'accord ? S'il est persuadé que « maman », entre guillemets, qu'il a eu à l'éclosion et qu'il l'a attaqué, lui fait mal. De la même manière, ils ont essayé avec des êtres humains. Alors, l'être humain ne prend pas le robot pour sa mère, donc ça ne marche pas aussi bien. Par contre, ça marche quand il est moins axé sur son néocortex, dans le sommeil, en fait. Donc, quand il débranche un petit peu, ça marche, mais il n'attire pas le robot. Au contraire, le robot faisant du bruit, il le repousse le plus loin possible de lui. Voilà. Donc ça, c'est une expérience, par exemple, qui est assez étonnante sur le pouvoir de l'intention. Et c'est quelque chose d'officiel. Alors, vous avez également un autre élément. Vous avez beaucoup d'éléments. C'est des mines, ces livres. Mais vous avez, par exemple, je vous cite l'entrée qui s'appelle « Les médiums de l'armée ». Et là, c'est effectivement, par exemple, en septembre 1995, au cours d'une conférence de presse, on demanda à l'ancien président Jimmy Carter quel fut à ses yeux l'événement le plus marquant de son mandat. Spontanément, il répondit qu'à son arrivée à la Maison-Blanche, un bombardier russe s'était écrasé quelque part en Afrique. Les services secrets de plusieurs pays tentaient en vain de le localiser lorsque la CIA lui proposa de s'adresser à une unité de recherche non conventionnelle. Celle-ci, en moins de 24 heures et sans quitter le sol américain, retrouva les débris de l'avion au cœur de la jungle du Zaïre. Par quels moyens, s'étonne un journaliste, et l'ancien chef d'État de répondre avec un naturel parfait « Nous avons employé nos médiums ». Voilà. Et donc, ce chapitre vous explique comment, très loin du ridicule que l'on affuble à tout ce qui pourrait être jugé comme paranormal, paranormal, c'est juste quelque chose qu'on n'explique pas actuellement, tout simplement, y compris dans les services secrets, on utilise ces qualités de certaines personnes qui sont parfaitement reconnues et parfaitement acceptées, voire valorisées. Voilà. Et donc, ils font ce qu'on appelle, par exemple, du remote viewing, c'est-à-dire la visualisation à distance, pour voir par exemple aussi ce qu'il y a dans des hangars russes auxquels ils n'ont pas accès ou des choses comme ça, russes ou autres d'ailleurs. Voilà, donc une mine, le dictionnaire de l'impossible, le nouveau dictionnaire de l'impossible l'est tout également. Je vous conseille d'acheter les deux, ils sont tout à fait complémentaires, c'est juste la succession de la chose. Et vous avez par exemple 3 expériences extraordinaires qui moi m'ont absolument marqué à propos du pouvoir de l'intention et de la manière dont on peut le le percevoir, mais dans les plantes peuvent également le percevoir. Les plantes ou les bactéries, figurez-vous. Alors en fait, c'était des expériences qui ont été faites dans les années 60 par le docteur Clive Baxter. Enfin non, c'était pas un docteur, c'était un ingénieur. Il travaillait pour la CIA et il avait fait une expérience et ensuite des choses sur les plantes. Mais si tu veux, lui, il était connu pour la CIA parce qu'il avait développé un très efficace détecteur de mensonges. Donc voilà, quand les personnes se retrouvaient en situation de, par exemple, si elles avaient fait une mauvaise action ou tué quelqu'un ou autre, eh bien, si on leur posait des questions sur le sujet, elles se sentaient menacées et donc elles avaient des réactions au niveau du cerveau, des réactions au niveau du rythme cardiaque, exactement, peut-être la transpiration, des choses comme ça. Et donc, on pouvait détecter si elles mentaient ou pas. Donc, fort de cette expérience, Baxter a essayé de faire ça aussi avec les plantes, figure-toi. Donc, il a, comme ça, pour voir, mis une électrode sur une plante. Alors, il a effectivement eu une réaction un petit peu étonnante de son Dracaena. C'est qu'il a vu qu'il y a une réaction électrique de son Dracaena quand il lui mettait l'électrode sur la feuille. Et puis, il s'est dit, si les hommes réagissent quand ils se sentent menacés par des questions concernant des choses qu'ils ont faites parce qu'ils ont, en gros, leur mauvaise conscience qu'il est arabuste, eh bien, qu'est-ce qui pourrait faire que la plante se sente menacée ? Alors, il décide d'aller chercher une boîte d'allumettes et se dit, je vais brûler une feuille. Au moment où il a l'idée de faire cela, crac, un grand pic se caractérise au niveau donc de l'électrode. Il y a un électroencéphalographe qui prend, on va dire, là c'est pas encéphalo, mais c'est un électroplantographe, je sais pas si on pourrait dire, qui va mesurer graphiquement les pics d'électricité que émet la plante quand elle est visiblement, quand elle se sent menacée. Et là, elle se sent menacée, non pas quand on lui brûle la feuille, mais même quand il a l'intention de brûler la feuille. Alors il répète l'expérience, il le fait avec son assistant. Il essaye des milliers de fois apparemment et ça marche. À chaque fois que la plante a l'impression qu'on va la menacer, elle réagit. Il fait même une expérience aléatoire pour savoir si dans l'autre sens ça va mieux marcher, c'est-à-dire est-ce que la plante réagit à la gratification. Donc il se dit... je vais me promener et puis il a dans son poche, si tu veux, une sorte de, tu sais, ces minuteurs là, comme pour la cuisson des œufs là, que tu règles de façon là, lui, aléatoire. Un minuteur, voilà, un compte minute. Et donc quand ça sonne de façon aléatoire, parce qu'il l'a réglé sans regarder, là il se dit, j'arrête ma balade, je vais arroser ma plante. Pendant tout ce temps-là, il a laissé courir le graphique, si tu veux, et ensuite il recoupe au niveau horaire et il constate que au moment où il a eu l'intention de rentrer pour arroser sa plante, à un moment non déterminé, puisque c'est déterminé uniquement par le minuteur qu'il a réglé aléatoirement, eh bien, la plante a émis un pic de satisfaction, et ceci à distance. Donc les plantes perçoivent nos intentions, bonnes ou mauvaises, et ceci même à distance. En gros. Donc ça, c'est vraiment déjà assez extraordinaire. Non,
mais c'est pas le seul qui a tenté l'expérience, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres expériences ?
Je ne sais pas. Dans cette entrée, on ne parle que de lui. Mais c'est quand même très intéressant parce qu'il a fait ça quand même pendant 40 ans. Il a reproduit tout ça pendant des milliers de fois pendant 40 ans. Donc c'est quand même énorme, quoi. Et puis, c'est un gars qui n'avait rien à perdre. Je veux dire... pourquoi aller, entre guillemets, te ridiculiser à faire ce genre de choses alors que tu travailles pour la CIA, que tu as un détecteur de mensonges efficace à ton actif. Je veux dire, si tu n'es pas sûr de tes résultats, tu ne vas pas aller justement risquer le ridicule, quoi. Alors, il est assez étrange qu'effectivement, ce gars-là, il a découvert d'autres choses. Alors, il y a deux autres entrées qui parlent de Baxter là-dedans. Vous avez cellules, communication entre nos cellules, et vous avez également une histoire de yaourt. Voilà. Alors, pour aller très très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps justement, eh bien, par exemple, il prélève des lymphocytes donc de son système immunitaire, il les met dans un tube à essai, il met une électrode dans le tube à essai, et il se dit, je vais me faire une entaille sur la main. Et là, figure-toi que les lymphocytes issus de son propre corps, mais qui ne sont plus dans son corps, qui sont dans le tube à essai, réagissent électriquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lymphocytes du tube à essai se sont sentis menacés par son intention à lui de se couper la main, de se faire du mal, de s'inciser le dos de la main. Ça veut dire qu'il existe également une communication entre les lymphocytes de son corps et les lymphocytes de l'éprouvette. Que les lymphocytes de l'éprouvette, même s'ils ne sont plus dans son corps, se considèrent comme encore faisant partie du corps, encore menacés par cette décision d'incision. D'accord. Ce qui veut dire que, bon, en quantique, en mécanique quantique, on le sait bien qu'il y a l'air d'avoir une sorte de réaction similaire, d'éléments qui proviennent d'une même origine, même s'ils ne sont plus ensemble. Eh bien là, tu as l'air d'avoir exactement cette réaction-là, mais tu as également donc le message que tes cellules à toi vont réagir et vont réagir à l'intention que tu peux avoir, bonne ou mauvaise. Et peut-être, va savoir, vont réagir à l'intention bonne ou mauvaise que d'autres vont avoir à ton égard. D'accord ? Donc, d'où l'importance, effectivement, d'être bienveillant aussi à l'égard des autres, positif et bienveillant. Si on revient à ce qu'on avait dit à propos du pasteur Martin Niemöller, de ne pas se considérer comme un individu isolé qui va être seul concerné par ses petites affaires. Nous sommes tous dans le même bateau et peut-être plus qu'on ne le croit. À bientôt.
Merci beaucoup, madame.